UTMB 2022. Jour après jour, le Duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course.
Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette UTMB J-14. Et ça y est, à 2 semaines de l'événement, eh bien malheureusement, je l'ai bu. Je l'ai bu au cours de l'après-midi, ce dernier café. Et là, je bois une tisane. L'enfer commence déjà. Et oui, ça y est, c'est fini. On attaque les 2 semaines de privation de caféine. De théine également, enfin de tout excitant possible et imaginable. Par exemple, le guarana, dedans il y a un petit peu de caféine, donc pareil, on se le met sur l'oreille, on le fumera plus tard. Pas si mauvaise. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du parcours de l'UTMB. Alors certes, j'ai publié les temps de passage. Mais c'est vrai que suite à une remarque judicieuse et pertinente de Chris P, qui me demande d'écrire un petit peu ce parcours pour celles et ceux qui n'ont jamais fait l'UTMB, que ce soit pendant la course, que ce soit en randonnée, voilà, souvent sur quelques jours en dormant dans les refuges, ça se fait très bien. Voilà, ceux qui ne connaissent pas forcément l'état du terrain et qui peuvent avoir sous les yeux finalement que le profil bête et méchant avec le dénivelé, le kilométrage. Alors ça, je ne vais pas en parler, mais je vais vous décrire le parcours en vous expliquant un petit peu chaque zone, les tenants et les aboutissants de chaque zone. Donc si tu veux, une fois que le départ est donné à Chamonix, 18h, vendredi 26 août, place du Triangle de l'Amitié, tout ça, patati, patata, là, il faut faire très attention, en fait, aux 500 premiers mètres, parce que tout de suite il y a un virage sur la droite, ça bourre de partout, tout le monde veut être à l'avant, et on se heurte directement à ce qui est assez pénible dans l'espèce humaine, c'est la bêtise, puisque vous avez des gens qui se mettent à l'avant de la course, alors qu'ils n'ont absolument pas le niveau pour y être. Par exemple, c'est pas leur porter préjudice, mais quand vous voyez une petite chinoise qui fait 1m60 et 45 kg, qui se met sur la deuxième ligne, tu te dis, mais pourquoi elle est là, elle, en fait? À part pour nous gêner. Parce que ça va partir à 17,5 km/h à l'avant. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dégage! Tu vas partir à 14 à l'heure. Mais toi, derrière! Là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire bourrer dans tous les sens. Et à la fin, dans le meilleur des cas, et puis dans le pire des cas, tu vas tomber comme Sébastien Chéniaud en 2000... Je me souviens plus de la date. Donc voilà, il faut un petit peu... Donc moi, quand je me suis mis devant, systématiquement, je partais dans les 10 premiers. J'avais pas vraiment l'impression de gêner les autres, tu vois. L'an passé, on était un groupe de 20, et puis après, il y avait un trou derrière. Dans le groupe de 20, je suis désolé, il n'y avait pas une femme. Du coup, pourquoi elles sont devant? C'est pour qu'il y ait plus de chutes, c'est ça? C'est pour que ce soit un petit peu plus dangereux? Pareil, t'en as certains, ça y est, on les fout dans le sas élite. Les mecs, ils ont une érection de 35 cm, et puis ils se faufilent, ils te bourrent un petit peu pour se mettre devant, t'as envie de le regarder, tu lui fais « Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Je vais te mettre 2 heures dans la vue. Reste tranquille, mets-toi derrière, tu vois. » Eh ben non, il faut être devant, voilà. Donc c'est assez pénible, ça génère du stress pour tout le monde. Et rien que d'en parler, tu vois, ça m'agace, parce que vu que je vais partir doucement cette année, je sais que jusqu'aux ouches, ça va vraiment m'énerver d'être au milieu de ce peloton, parce que je vais passer aux ouches à peine dans le top 100, et voilà, derrière je vais doubler 80 personnes, quoi. Voilà. Mathieu Clément, l'an passé, il court à 3,50 au début de la course sur les premiers kilomètres de Goudron. Les gens le doublaient, et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui est arrivé à Mathieu Clément, qui arrêtait pas de se faire doubler au départ, en courant à 3,50 au kill? Ah bah il a fait 10e. Mais alors ceux qui l'ont doublé, ils ont fait quoi? Ah bah ils ont abandonné. Ah bah voilà. Ah bah c'était bien la peine, tiens. Donc voilà, je pense qu'on va encore assister à un festival. Et le stress sera maximal pour ne pas se prendre une chute. Alors après, si tu veux, pour aller jusqu'au jus, une fois que tout le monde s'est plus ou moins mis à sa place dans les deux premiers kilomètres de Goudron, on est sur le chemin. Bon, là, c'est un petit peu délicat de passer. Je pense que s'il y en a un qui s'excite un peu derrière moi, il peut vite prendre une gifle. Voilà, je le dis, hein, je vais être particulièrement nerveux au départ. Moi, il faut savoir qu'une fois qu'on donne le départ de l'UTMB, là, cette année, je serai en mission. Si tu veux, comme John Rambo, quand il part au Vietnam, là, comme ça, faut pas lui parler, tu vois. T'arrives par derrière, tu le tapes sur l'épaule, son réflexe, c'est de vider un chargeur. Voilà, moi, je vais être un peu dans la même philosophie. Une fois que t'arrives aux ouches, là, en général, tout le monde débande parce qu'on attaque la première bosse. Alors là, tac, ça tire des grands coups de frein à main dans tous les sens. D'un coup, les mecs deviennent handicapés. Alors, ça courait à 16 à l'heure sur le plat. Et puis là, même marcher avec des bâtons, c'est presque un effort surhumain. Donc, ça monte à 2 à l'heure. Bon, là, ça me va bien. Moi, je vais monter doucement. C'est très, très raide dès le début. En fait, dès le début, t'as un petit passage qui est très raide, qui calme tout le monde. Ensuite, c'est un petit peu plus en faux plat, on reprend un peu de route. Et une fois qu'on est vraiment sorti des dernières maisons des ouches et qu'on attaque un peu la piste de ski, là, globalement, c'est raide et le groupe de tête, l'an dernier, ne courait à aucun moment. Voilà. Le sommet du Delévray, on attaque la descente sur Saint-Gervais. Et là, c'est pareil, on commence par la descente des pistes de ski. C'est extrêmement raide. Et l'an passé, justement, j'ai été surpris par la lenteur du groupe de tête dans cette partie raide qui vraiment, vraiment, vraiment gérait le truc. Et en fait, le groupe de tête est le groupe de tête parce que dès qu'on est arrivé sur des portions un peu plus souples, donc disons aux trois quarts de la descente, quand il commence à y avoir des singles qui serpentent dans les maisons au-dessus de Saint-Gervais, et qu'après même, on atterrit sur la route et qu'il reste 2 km pour aller au ravito de Saint-Gervais, là, à ce moment-là, ça court à Mach 12. Et là, l'an passé, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que je faisais une connerie dans les suivants. Mais bon, j'ai pas pu me retenir. Parce que je me suis dit quand même, entrer dans Saint-Gervais, à côté de François Den, Xavier Thévenard et Jim Wamsley, ça va pas m'arriver souvent dans une vie, allez, je le fais. Bon, écoute, hein, je l'ai fait l'an passé, voilà, on a tous vu à quoi ça servait, ça servait à rien. Donc cette année, bah, je vais être tranquillou 80e à Saint-Gervais. Quand t'es à Saint-Gervais, alors beaucoup font l'erreur de ne pas s'arrêter au ravitaillement pour remplir leur gourde, parce qu'ils ont peur d'être doublés par les 5 mecs derrière. C'est complètement débile. À Saint-Gervais, on a fait 2 heures de course, on est en fin de soirée, souvent il fait un petit peu chaud, l'air est plutôt chaud quand même. Il faut avoir bu 1 litre d'eau quand on arrive à Saint-Gervais et il faut re-remplir ses gourdes. C'est comme ça. Sinon, on commence déjà à s'entamer pour la suite. Donc là, on peut rigoler un petit peu quand on en voit qui ne remplissent pas. On peut s'amuser, tu vois. On peut faire des paris. À quel moment on va les redoubler, dans quel état. On peut s'amuser un peu comme ça. Donc là, voilà, je m'arrête, je remplis mes 2 gourdes. Voilà, je dis pas ça pour vous faire chier. Hein. L'an passé, François Den, il a fait ça. Hein. Et on repart de Saint-Gervais, et là, une partie extrêmement dangereuse. C'est que de Saint-Gervais au Contamine, le profil n'est pas très dur. Il y a beaucoup de faux plats montants, et puis des fois, il y a des côtes un peu raides, mais elles durent 3 minutes, tu vois. Du coup, l'an passé, j'ai été tenté, avec la bonne forme que j'avais, de tout courir. Et là, c'est une immense erreur. Par exemple, je me souviens d'une côte sur le Goudron qui devait être à 12-13%. Donc t'es tout frais et tout, t'es bien, t'as envie de la courir. Et quand je suis arrivé dans la côte, j'étais avec Diego Pazos et Ludovic Pommeret. Et eux, ils se sont immédiatement arrêtés pour marcher avec leur bâton. Et moi, je leur ai dit « Ouais, salut les gars, on se revoit plus tard. » J'ai monté en courant et j'ai rejoint Xavier Thévenard. C'était pas très intelligent. Donc voilà. Saint-Gervais les Contamines, vraiment une partie où on peut faire des grosses conneries. C'est des chemins extrêmement faciles, il n'y a quasiment pas de single, c'est uniquement des routes ou des pistes forestières. Mais encore une fois, on est entre 2 et 3 heures d'effort, enfin du moins pour le groupe autour de moi, on va dire. puisque l'an passé j'étais arrivé en 2h50 au Contamine, cette année je vais y être en 3h07. Donc là, voilà, on est vraiment dans le début de la course, on n'est pas du tout fatigué, donc on peut aller vite sans s'en rendre compte, et à ce moment-là, on va griller un petit peu son glycogène, qu'on a pourtant bien fait attention d'avoir en réserve dans le corps avant la course. Donc c'est un peu dommage, c'est vraiment une partie très dangereuse pour tout le monde, hein, à n'importe quel niveau, voilà. Même si vous avez fait un départ prudent jusqu'à Saint-Gervais, vous pouvez vous exciter un peu entre Saint-Gervais et les Contamines, ce sera une grosse erreur, il faut rester encore une fois très 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 prudent. Et je le répète, à l'avant de la course, ça marche dans toutes les bosses. Après, on arrive aux Contamines. Alors là, suivant la météo du jour, ça peut être un point un peu stratégique, parce qu'on va pas revoir son assistance avant Courmayeur. Donc on va faire, pour la tête de course, 6h30 tout seul, on va dire. Voilà, pour le top 20, on va faire entre 6 et 7 heures tout seul. Donc les Contamines, voilà, s'il y a des conditions un peu fraîches, si on sent que la nuit pue du sgeg parce qu'on annonce une mauvaise météo, bah on va peut-être en profiter pour enlever le t-shirt et revêtir un pull, on va peut-être en profiter pour changer des affaires, voilà. En tout cas, c'est le dernier moment où on voit l'assistance avant 6-7 heures tout seul. Donc il faut faire attention, ça peut être un ravitaillement important, les Contamines. Voilà, l'an passé, je m'étais changé. C'est pas forcément nécessaire, je pense que je le referai pas cette année si la météo est similaire. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on va viser la veille pour le lendemain, pour être vraiment certain de la météo. Ensuite, on va monter le col du Bonhomme et il y a un ravitaillement qui est à peu près au milieu à la Balme. Donc des Contamines pour aller à la Balme, ça court gentiment à environ 11-12 km/h pour rejoindre Notre-Dame de la Gorge. C'est plutôt plaf au plat montant. Arriver à Notre-Dame de la Gorge, c'est the place to be. Si vous voulez aller voir la course, il faut absolument aller là-bas. C'est en mode montée de l'Alpe d'Huez. Il y a plein de monde, les gens ramènent de quoi faire du bruit, c'est la fête. C'est la fête, c'est le début de la nuit, il y a des bras zéro, voilà, on s'amuse quoi. On s'amuse. Bon, cette année on fera peut-être pas des bras zéro parce qu'après on va cramer la forêt, c'est vachement embêtant. Et passé Notre-Dame de la Gorge, donc on attaque à monter à la Balme. Là c'est très piégeux parce que à Notre-Dame de la Gorge c'est très très raide, alors évidemment au début il faut marcher. Et en fait, rapidement, la pente devient plus douce. Et à ce moment-là, on est tenté de recourir un petit peu parce qu'on est tout frais. Alors, il faut courir un petit peu parce que c'est pas très raide. Mais je pense que ce qui est intelligent à faire, c'est de faire, par exemple, 5 minutes mini-trot, 2 minutes marche. Pour la tête de course, bien sûr. Hein. Après, derrière, vous faites tout en marchant, donc la question se pose pas trop. Mais voilà, plutôt que de bourriner, ce petit compromis me semble pas trop mal. Et une fois qu'on passe la Balme, là, par contre, on va être vraiment, vraiment dans le cœur du truc, le col du Bonhomme, plutôt raide, donc là, c'est uniquement marche-bâton. Col du Bonhomme, on arrive au sommet, donc en général, il commence à cailler un petit peu, mais c'est pas là où il fait le plus froid. Col du Bonhomme, pendant 2-3 km, on va osciller un peu sur le sommet, en fait. On est sur un chemin plutôt montant. Et là, c'est une partie très technique, il y a pas mal de cailloux, donc on trottine pas trop en fait, on trottine un peu, on marche, on trottine un peu, on marche. C'est un peu long pour aller jusqu'au refuge du col du Bonhomme. Et là, par contre, au refuge, tac, on bifurque, on descend direction les Chapieux. Alors la descente pour aller aux Chapieux, on va dire qu'elle se fait en deux temps. La première moitié, elle est assez raide, et c'est un single avec un petit peu de pierre et tout. Faut faire attention, parce qu'on est au début de course, on est tout excité, et c'est le moment où on peut se tordre un peu les chevilles. Et après, il y a une deuxième partie, plus dans les champs, où là, on déroule, voilà, ça court quand même aisément à 14-15 km/h. Ravitaillement des Chapieux, bon, là, on est tout seul, faut remplir ses flasques. Et après, des Chapieux, on prend la direction du col de la Seigne. Alors à ce moment-là, c'est pareil, c'est une partie que moi j'aime pas trop, parce que du col de la Seigne, on va rejoindre par un faux plat montant la ville des glaciers, ce qu'on appelle la ville des glaciers. Là, c'est assez long, faut trottiner tout le long, ça demande pas mal de puissance. En général, si vous partez trop vite, cette partie, vous la détestez. Donc cette année, en partant doucement, je vais l'adorer. Et après, quand vous êtes à ville des glaciers, bah ça y est, vous êtes vraiment au pied du col de la Seigne, et il vous reste quasiment 700 mètres de dénivelé. Et en fait, il est pas très raide, ce col de la Seigne. On serait presque tenté de le trotter à l'avant de la course. Je pense qu'il se trotte, d'ailleurs. Je crois que Xavier Thévenard, dans ses grandes années, le faisait en trottant. Donc, pour quelqu'un comme moi, on va préférer faire 2 minutes mini-trot, 1 minute marche, par exemple. Dans le col de la Seine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre sa veste. Enfin, c'est pas obligatoire, hein, ça dépend de la météo chaque année, mais s'il pleut pas et qu'on n'a pas mis la veste, qu'on est dans une météo plutôt agréable, il y a quand même de très très grandes chances qu'au sommet du col de la Seine, il y ait beaucoup de vent, et que ce vent nous accompagne quasiment jusqu'au lac Combale. Donc il vaut mieux mettre sa veste en montant le col, peinard, abrité du vent, qu'au sommet, parce que l'an passé j'ai eu des problèmes, ma veste s'est envolée, dans la nuit j'ai mis du temps à la retrouver, enfin bon, c'est un peu chiant. Vous atteignez le col de la Seigne au sommet, donc là c'est normalement c'est un des deux endroits les plus frais de la course avec le grand col ferré. Et là ça attaque à descendre, faut se méfier, c'est un grand chemin mais il y a pas mal de cailloux. Et tout de suite en fait on va rapidement prendre à gauche direction le col des pyramides calcaires en passant un petit ruisseau. Je vous conseille à toutes et tous de remplir de l'eau dans ce petit ruisseau parce que mine de rien le ravitaillement du lac Combale il est un petit peu plus loin. Parce que là, il va falloir se farcir la montée des pyramides calcaires. Alors, c'est à peine 300 de D+, mais c'est vraiment un tout petit single, un peu sinueux, un peu voilà, dans l'herbe haute, dans les cailloux. Bah, c'est un peu pénible à monter. Et surtout, en descente, le premier kilomètre est infâme. Là, vous avez un kilomètre d'échappée belle. Bon, ça va, il n'y a qu'un kilomètre. Mais pour rester poli, ça casse un peu les couilles, quand même. Et après, vous continuez à descendre gentiment jusqu'au lac Combale. Alors là, faut encore se méfier. Je me suis un peu tordu les chevilles l'an passé. Alors, c'était pas une entorse, hein, bien sûr, mais... Hop, peut-être tu sens la cheville, elle vrille un peu sur un caillou. Oh là 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 là, tu la réceptionnes de justesse. Bon, ça t'a étiré un peu le ligament, qui était un peu sensible. Attention. Attention. Bon, lac Combale, on ravitaille gentiment. Et là, on va faire quasiment 2 bornes de plat au bord des lacs. Avant d'attaquer une montée particulièrement raide et quand même costaude, puisque 400 mètres de dénivelé pour monter à l'arête du Mont Favre. Alors là, en général, chaque année, c'est là où j'ai commencé à me calmer, tu vois, en me disant oh, putain, c'est dur quand même. Donc cette année, j'espère l'aborder avec plus de fraîcheur. C'est une montée exigeante. Quand vous êtes au sommet de l'aiguille du Mont Favre, ce qui est sympa, c'est que la descente derrière, elle est vraiment pas raide. Ça déroule gentiment, donc c'est d'autant plus important de l'aborder vraiment frais pour galoper la truffe au vent en toute sérénité et atteindre dans un premier temps le col Chécrouy. Quand vous atteignez le col Chécrouy, là en général j'aime bien boire un petit... Voilà, je remplis une flasque en général au col Chécrouy parce que la descente sur Courmayeur elle est un peu longue quand même, encore. Il y a... Je sais plus combien de temps il y a, mais voilà, vous avez de quoi boire votre flasque. Et surtout... Plus on va descendre sur Courmayeur, plus on va sentir un peu la chaleur. Relative, hein, parce qu'il fait pas... Mais par rapport à toute la partie qu'on vient de faire, vers Courmayeur, il fait vraiment plus chaud. Ça attaque par une petite piste forestière qui va d'une piste de ski à l'autre, tranquille, gentiment. Et à mi-descente, là, cette saloperie prend à gauche, dans un chemin atroce. Il y a des marches d'escalier, c'est hyper raide. Et c'est comme ça qu'on arrive sur Courmayeur. Là, c'est vraiment un super moment parce que pendant 1 kilomètre, on serpente dans le vieux Courmayeur. Et d'un coup, poum, on tombe sur le grand complexe sportif, là où il y a le très gros ravito. Et c'est un symbole, quoi. Le ravitaillement de Courmayeur, c'est vraiment une très grosse étape, quoi. Pour moi, il y a le ravitaillement de Courmayeur et le ravitaillement de Champais, qui sont deux étapes un peu mythiques, quoi, de la course. Ce sont aussi des très beaux cimetières. Vous avez de nombreux abandons à ces endroits-là. Donc Courmayeur, c'est peut-être le ravito où globalement les gens vont y passer le plus de temps parce que en général on casse un peu la croûte. Voilà, on a son petit tupperware, sa petite salade de riz, des trucs comme ça. On aime bien se changer. On aime bien prendre des nouvelles un peu de ce qui se passe autour de nous avec l'assistance ou avec les bénévoles qui nous renseignent. Voilà, c'est l'arrêt le plus long. L'an passé, je suis entré dans le gymnase. Le temps de me changer, de changer de chaussures, de manger un bout et de ressortir, j'ai mis 8 minutes. Voilà, cette année, je vais essayer de descendre à 6 minutes avec une stratégie repas un peu plus agressive. Bon, on verra. Mais il faut prendre le temps de faire les choses, quand même. Une fois que vous repartez de Courmayeur, là, franchement, psychologiquement, c'est dur. Vous n'êtes pas tout à fait à la mi-course. Vous n'avez pas encore fait la moitié de la nuit. Bon, je parle de mon cas personnel. Hein. Psychologiquement, c'est dur. Vous repartez pour 7-8 heures sans voir votre assistance. Ça vous calme. Il y a 3 km dans les rues de Courmayeur, en faux plat montant, puis bon, à la fin, ça monte vraiment, là, sur la route. Pareil, c'est pénible. On se cherche un peu, quoi. On trottine, on marche, on est dans un entre-deux, c'est délicat. Après, on prend le chemin pour monter au refuge Berton. Bon, là, c'est assez raide, donc il n'y a pas de doute. Marche-bâton. Au refuge Berton, ça commence à aller mieux psychologiquement. Tu vois, on a passé la mi-course, on se sent mieux. Et puis, donc, toujours pour moi, quand je suis au refuge Berton, je vois la frontale du premier qui est dans le Grand Col Ferret. Et je vois que c'est loin. Donc c'est un peu dur, mais il faut l'accepter. Quand on est au refuge Berton, après, ça, le chemin, voilà, c'est un joli chemin. C'est pour ça que j'ai hâte de l'attaquer en étant plutôt en forme, plutôt frais, parce qu'on peut bien le trottiner. Jusqu'à Bonatti, voilà, ça monte un peu, ça descend un peu. Mais tout se court, globalement, à part quelques endroits rarissimes. Tout se trottine, quoi, on va dire. Arrivé à Bonatti, on continue un petit peu sur le chemin en balcon, là, comme ça. Et à un moment donné, boum, on prend à gauche et on descend sur Arnouva. Arnouva, c'est aussi un gros ravitaillement, parce que là, on est au pied du Grand Col Ferret. Donc, on va se farcir 800 mètres de dénivelé. Du coup, au ravitaillement d'Arnouva, faire ce que j'ai fait l'an passé, c'est-à-dire exploser comme une merde, prendre une grosse fringale et bouffer 3 assiettes, je déconne pas, hein, 3 assiettes pleines au ravitaillement d'Arnouva, c'est une très mauvaise idée parce que derrière, vous ressortez, vous avez 800 mètres de dénivelé à faire. Donc voilà, quand on a mal au ventre, ça ne marche pas. Donc Arnouva, il faut y arriver plutôt en bonne santé pour se ravitailler de manière sommaire, c'est-à-dire remplir ses flasques, prendre peut-être, je sais pas moi, des noix de cajou salées, des trucs un peu comme ça qui permettent de bien passer la nuit, de bien se réveiller. On monte le Grand Col Ferret. Là, c'est assez long. C'est pas trop raide, c'est un petit peu comme le pour aller au refuge de Berton. Bon, c'est de la marche bâton, il n'y a pas à hésiter. Et le problème, encore une fois, là, il faut vraiment remettre sa veste parce que au sommet du Grand Col Ferret, c'est rarissime que les conditions soient bonnes. Il y a toujours beaucoup de vent, il fait toujours assez frais parce qu'on va y passer à 6-7 heures du mat. C'est le moment où vraiment les températures de la nuit ont vraiment baissé progressivement et on atteint un point bas, un bottom, comme on dit en bourse. Donc, méfiance, il faut être bien habillé pour passer le Grand Col Ferret. Pourquoi pas le bonnet, le bandeau, le buff, les gants. Ça peut aider à moins sentir le froid. Bon, le collant, le pantalon, c'est peut-être vraiment pour ceux qui vont y passer du temps. Moi, j'en ai jamais ressenti le besoin, même en 2018 quand il faisait froid. Mais les extrémités, c'est important de les couvrir. Vous êtes en haut du Grand Col Ferret. On se rapproche de l'arrivée, hein, gentiment. Il y a la descente. Alors, c'est très très long parce qu'il y a 20 bornes de descente et de plat. Donc au début, ça descend, c'est jamais très raide. On court, on court, on court. Alors là, c'est presque la partie où je suis le meilleur. On va... Ouais. Ça descend quasiment jusqu'à la foulie. Il doit y avoir un petit peu de plat sur une piste forestière, peut-être une ou deux bornes, mais encore, c'est du faux plat descendant jusqu'à la foulie. Là, on se ravitaille. Et là, mentalement, on commence à retrouver un peu la patate, le smile, parce qu'à la foulie, on revoit des gens. Donc c'est un ravitaillement où il n'y a pas le droit à l'assistance, mais en général, ce que mes parents font, excusez-moi, je sniffe un peu de coke en même temps, ce que mes parents font, c'est que ils posent ma mère qui me ravitaille à Champais, et là, elle fait sa petite popote, tu vois, tranquille en m'attendant, et puis mes parents, frères, sœurs, voilà, toute la smalla qu'il y a dans la voiture, Inch'Allah, eux viennent me voir à la foulie, ils reviennent me voir à Prat-Fort, le petit bled après, et puis après ils remontent à Champé. Donc c'est sympa, on peut recommencer à voir un peu du monde. La foulie, on se ravitaille bien. Alors derrière, c'est un petit peu long pour aller à Champais, parce que derrière la foulie, bah, c'est globalement du plat, certes un petit peu descendant, c'est vrai. Jusqu'à Prat4, justement, le dernier bled. Là, on fait encore une borne et demie de faux plat descendant. Et ça y est, on attaque la montée pour remonter à Champais, qui est pas très raide. On le voit sur les 15, 20, 30 premières places. De temps en temps, dans la montée, les gens refont un peu de mini-trot, tu vois, avec le bâton. Pourquoi pas. Champêtre, très très gros ravitaillement. En général, il y a eu le lever du jour, les températures se réchauffent. Voilà, on enlève le pull, on remet le t-shirt, on se change un petit peu. Pourquoi pas changer de chaussures? Ce sera pas mon cas, moi je vais attendre Trian. Mais voilà, c'est quand même globalement un bon ravitaillement. Y a un théorème à Champais, c'est le théorème Frédéric Bousseau, journaliste pour Trail Endurance Mag depuis des décennies. Il dit que si un coureur repart de Champais, en général, il voit l'arrivée. Voilà. Sauf pour Diego Pazos, en 2016, je crois qu'il avait abandonné à Valorcine, dans une souffrance terrible. Bon, on rigole parce qu'il était proche de l'arrivée, personne ne comprenait. Mais le pauvre Diego, il souffrait le martyr depuis longtemps, et à Valorcine, il avait jeté l'éponge. Bref, vous repartez de Champais, et là, c'est la partie que je déteste. Parce qu'on fait le tour du lac de Champais, après ça monte un petit peu, après ça descend un petit peu, après il y a une piste forestière montante, il y a au moins 5 bornes qui sont casse-couilles, il n'y a pas d'autre mot. Parce que si tu veux, à ce moment-là, t'as fait 127 bornes, t'as quand même vraiment, 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 vraiment plus envie de trottiner, à moins que ce soit de la descente. Donc c'est pénible, jusqu'à ce qu'on attaque vraiment le single, qui va monter de manière très prononcée jusqu'à Bovine. Alors Bovine, c'est rigolo parce qu'on commence à doubler un peu des randonneurs, tu sais, qui sont partis le matin, qui comprennent pas toujours ce que c'est l'UTMB. Ça m'a quand même étonné. Les mecs qui sont sur les sentiers du Tour du Mont-Blanc, ils savent pas qu'il y a une course en même temps. Bon, rigolez pas, hein, c'est du vécu. Bon. Bovine, le ravitaillement est extrêmement sommaire. Ils ont que de l'eau. Voilà, c'est un point d'eau, quoi. Des fois, il y a du coca. On peut commencer à prendre du coca à Bovine, c'est pas déconnant. Et là, Bovine, on va attaquer une descente avec pas mal de racines au début, qui va nous emmener jusqu'au col de la Forclaz. Et au col de la Forclaz, après, c'est un très beau sentier, très très propre, il n'y a même pas une seule racine, je crois, pour descendre jusqu'à Trian. Et c'est particulièrement raide. Donc là, il commence à y avoir un séisme entre deux types de coureurs. Le mec qui est un peu entamé et qui n'arrive pas trop à descendre. Et le mec qui est en pleine remontada et qui descend full gaz. J'espère cette année appartenir au deuxième clan. Quand vous arrivez à Trian, là en général c'est très festif pour le top 30. Après derrière je sais pas trop. Il y a beaucoup de gens, ça encourage vraiment pas mal, c'est très sympa. Et cette année je vais essayer de faire un ravitaillement en une minute, quoi, juste prendre ce dont j'ai besoin et repartir. Chaque année je m'arrêtais trop longtemps pour me lamenter sur mon sort. Ça sert à rien, hein. Déjà, si je me suis mis dans un état minable, c'est 100% ma faute. Donc inutile de faire pleurer dans les chaumières, il faut assumer et repartir. Vous repartez de Trian, il y a un tout petit peu de piste forestière, à peu près 1 km, et là, vous montez les Zeppes. C'est une montée atroce. C'est un beau single, hein, il n'y a pas de cailloux, rien du tout, mais c'est hyper raide. Si vous êtes cassé, c'est l'enfer. Vous arrivez au Tsep, et là ça bascule pour descendre à Valorcine. Il n'y a plus trop de plat hein, sur la fin, voilà, c'est plutôt très montagneux. Ça bascule pour descendre à Valorcine, et là c'est une très 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 belle descente. D'abord un joli single, pas trop raide, et ensuite un petit peu de piste de ski, pareil, pas trop trop raide. Et à la fin, quelques racines et cailloux sur les 200 derniers mètres de dénivelé. Mais bon, rien de folichon. Et on arrive à Valorcine. Alors là, ça commence à sentir bon. Bon, quand vous passez Valorcine, l'an passé, c'était le pire passage pour moi. Mais cette année, ça va être génialissime. Valorcine, là encore, on peut faire un ravitaillement vraiment express. On prend ses deux gourdes via son assistance et on se barre avec quelques barres. Quelques compotes, plutôt, pour moi. Et là, il y a une partie qui est pénible. Pour aller jusqu'au col des Montets, parce que c'est un faux plat montant, donc c'est vraiment très agaçant. À ce moment-là, vous avez les. Enfin, moi, je deviens tout raide hein, pendant la course, donc là, j'ai les tendons d'Achille qui tirent un maximum, ils veulent plus se plier, les salauds. Donc évidemment, j'ai beaucoup de mal à trottiner sur cette partie, donc je perds un peu de temps, je pense. Hein. Même si j'arrive en forme cette année, globalement, je serai diminué par rapport aux autres, c'est une partie qui ne me correspond pas. Par contre, une fois qu'on a passé le col des Montées, ça y est, on attaque la boucherie, la montée à tête au vent. Alors là, c'est particulièrement raide, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de cailloux, et pour une personne de petite taille comme moi, il faut les enjamber. Il y a aussi des marches et tout, donc c'est très très dur. Surtout que vous êtes cassés, les ischio-jambiers, ils veulent plus trop faire leur travail. Les quadriceps, faut pas leur demander un angle trop important. Donc voilà, enjambés, les cailloux, la montée raide, les escaliers, c'est vraiment... Vraiment, c'est dur. Alors il faut vraiment... Là, il va falloir vraiment trouver des ressources mentales. C'est la dernière montée, voilà, c'est la dernière fois qu'on souffre comme ça. Et après, quand on est en haut, tête au vent, déjà le paysage est extrêmement agréable. Le groupe de bénévoles au sommet, je crois que c'est le même chaque année. C'est des gens géniaux, très sympas. Et enfin, on attaque uniquement la descente. Alors certes, ça va être très très long, hein, parce qu'il y a quoi, 13 bornes, je crois, jusqu'à Cham. Mais pour aller jusqu'à la Flégère, ça descend gentiment. Alors il y a pas mal de cailloux. Il y a pas mal de cailloux pour aller à la Flégère. Il faut rester vigilant hein, quand même, ce serait con de se faire mal ici. Et voilà. Ça trottine bon gré mal gré jusqu'à la Flégère. Il y a des toutes petites remontées sur 10-20 mètres à des moments. Alors là, inutile de vous dire qu'on marche. La Flégère, vous avez un petit taquet de 30-40 mètres de dénivelé sur la piste de ski pour atteindre le ravito. Et puis après, c'est que de la descente. Alors attention, les 100 premiers mètres de dénivelé, voire même les 200 premiers mètres de dénivelé, sont absolument atroces. On descend une piste de ski particulièrement raide. Et à ce moment-là de la course, on a envie de tout sauf de ça. Et après, on rentre dans les bois, et là, bah, c'est pas très raide. C'est même limite plat, donc on se fait un peu chier. En plus, il y a plein de racines à éviter, donc c'est super piégeux. Faut pas s'accrocher les pieds pour basculer de l'avant et se faire mal, ce serait quand même con, à 6-7 km de l'arrivée. Donc c'est assez long, cette partie dans les bois. Franchement, on en a vite marre, parce qu'on se voit pas trop descendre, on se dit « putain, mais c'est loin, c'est loin, c'est loin ». Alors ce qui est amusant hein, dans ces efforts de longue distance, c'est que le cerveau, on devient un peu débile tous. Et plus on se rapproche de l'arrivée, plus on voit que c'est loin. C'est con, hein, mais c'est, ouais, c'est un biais psychologique. Alors maintenant que je le connais et que je l'ai bien assimilé, je pense pouvoir m'en défaire, mais ouais, c'est assez déstabilisant. Et à 3-4 bornes de l'arrivée, on va commencer à entendre un petit peu des voix. Et là, ça y est. Là, on sent qu'on arrive. On passe le chalet de la Floria. Alors, il y a des gens qui boivent le café. C'est assez lunaire. Hein. Nous, on traverse les tables. Voilà, on peut mettre un coup d'épaule au serveur sans faire attention. Bon. Et donc, c'est assez rigolo. Et après ce chalet là, de la Floria, la descente est particulièrement raide. Mais là, ça y est. Vous retrouvez un petit peu de public. Des gens qui sont montés voir la dernière descente, des trucs comme ça. Et une borne après, ben, ça y est, vous commencez à rentrer dans la ville. Vous retrouvez le bitume. Et à ce moment-là, vous avez qu'une envie, c'est de lui faire l'amour au bitume. Il y a ces deux passerelles pour passer au-dessus des routes. Et là, bah, vraiment, il y a du monde dans les deux derniers kilomètres, partout. C'est complètement débile. Et bah là, vous sentez plus rien, hein, vous êtes porté. Puis c'est sûr, quoi. Maintenant, ça y est, c'est sûr, vous allez franchir cette ligne d'arrivée. Donc c'est le bonheur total, quoi. Rien que de le dire, ça me provoque beaucoup d'émotions et j'ai vraiment envie d'y être, quoi. Je suis assez impatient. Ça y est, à 2 semaines de l'événement, je commence à être assez impatient. Voilà Chris, j'espère que je t'ai suffisamment bien décrit ce parcours. Enfin, évidemment, on pourrait y passer des heures, mais voilà, t'as mon analyse bête et méchante. En freestyle, comme d'hab. Alors maintenant, parlons un petit peu de cette journée. Voilà, je suis censé, après le gros entraînement vélo d'hier, me faire un bloc de repos. Donc voilà. Ce matin, petite sortie en groupe. Tranquille, 12 bornes, 2 heures, pas mal de pauses pour discuter, un peu trop peut-être, voilà, j'ai trop discuté, m'a-t-on dit. C'est un comble, tu sais, c'est les gens qui se plaignent que ça a pas assez vite du coup. Mais bon, voilà, il faisait beau, c'était sympa, on était une petite douzaine, j'étais agréablement surpris. Donc voilà, très très bon moment d'échange, qui font beaucoup de bien à la tête. Et puis, bah, après, une fois rentré... Un bon petit repas, très propre, très clean, en quantité suffisante, mais pas trop, pas d'abus, pas d'excès. On commence à garder une certaine linéarité. Et je me suis mis mes petites bottes de compression, là, les reboots, là, la pressothérapie que j'ai eue à mon anniversaire. 45 minutes, j'ai envoyé un peu la patate. J'ai glandouillé un petit peu de rédaction, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, une petite lecture, un petit peu de boulot sur le PC, bref, l'après-midi suivait son cours gentiment. Le goûter, et à 17h, j'étais chez la kiné pour mes chevilles, pour les bosser, voilà, un petit peu d'élastique, un petit peu de bosu, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. J'y retournerai lundi et mercredi pour que la proprioception soit au top du top, même si pour une bonne proprioception, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller dehors, de marcher dans des chemins techniques, de courir dans des chemins techniques. Et du coup, lier les deux, c'est pas plus mal, parce que dans le cabinet de kiné, vous faites des choses extrêmement guidées, codifiées, voilà. Et dehors, vous faites un petit peu tout et n'importe quoi, mais ça sert aussi pour le cerveau et la tête, pour bosser. Donc, c'est intéressant de faire les deux. Et puis ce soir, eh ben, automassage avec mon petit rouleau, là, et étirement. Avec un temps de maintien qui va être divisé par deux. Pourquoi ? Parce que j'attends vraiment les jours de repos total samedi et dimanche pour faire des temps d'automassage et d'étirement longs. Alors, comment je les ai déterminés ? Je ne me suis pas pris la tête. J'ai lu les ouvrages de Christophe Cario que je vous ai cités dernièrement. Et il propose une fourchette basse et une fourchette haute. Quand j'ai des entraînements pas trop durs, je fais les automassages et les étirements de la fourchette basse. Quand j'ai des jours de repos, je fais les étirements et les automassages de la fourchette haute. Et quand j'ai des entraînements intenses ou que pendant 3-4 jours, je pète de la fibre, évidemment, je ne fais aucun automassage et aucun étirement. Voilà un peu pour ma philosophie. Que dire de plus ben, je crois que j'arrive au bout. Hein. Demain, off total, donc. Bah, je vais marcher pour aller jusqu'au lagon. Parce que je refuse de payer 1,60€ pour utiliser la trottinette électrique. Lagon, petit spa demain, tranquille. Ah, la journée va être merveilleuse. Grasse matinée, lecture, 11h, soyez là, Cierzinal, Sylvain Cachard, pour battre Kylian Jornet, vous l'aurez entendu ici la première fois. Et une fois que je me serai régalé devant ce Cierzinal qui va être absolument magnifique, là je tire quand même mon... J'aime bien glorifier hein, l'organisation de l'UTMB, mais je tire aussi mon chapeau au Golden Tri Series, qui vont nous proposer demain un live absolument formidable du début à la fin de la course. Et je suis vraiment très 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 heureux d'avoir rien à foutre ce week-end. Ça m'arrive quasiment jamais. C'est-à-dire que ce week-end, si tu veux, ma seule préoccupation, c'est d'aller au lagon pour faire du sauna et du jacuzzi. D'habitude, j'anime des courses, j'ai des entraînements, j'ai l'anniversaire de quelqu'un de ma famille, la fête des mères, ceci, cela. Là, ce week-end, samedi, dimanche, je suis seul avec moi-même et le but, c'est de glander. C'est incroyable. Je ne saurais pas vous dire quand ça m'est arrivé. Peut-être vers Noël, je ne sais plus. Je vais me passer de la crème sur le corps. Pas pour attirer les femmes, hein, plutôt des baumes. Des baumes revigorantes avec des huiles essentielles dedans. Enfin bref, voilà, ça va être le kiff total. Une fois que je me serai mis des huiles essentielles sur le corps, je vais me promener en slip dans mon salon, enfin qui me sert aussi de cuisine puisque c'est un studio. Voilà quoi, le bonheur. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis donc à demain. Demain, on va faire un podcast sympa où on va traiter d'autres questions. Sans vouloir trop vous spoiler, je crois que demain, ça va pas être le podcast de Ferrari, mais ça va être le podcast d'Hervé Augoyard, qui est un patriote. Allez, salut.
Le podcast est à présent terminé, et le Duc vous dit à demain, si vous le voulez bien.